La communauté écotable rencontre.
Chères auditrices et auditeurs du podcast Sur le grill d'Écotable, pour ce début d'année 2024, j'ai laissé le micro une semaine sur deux à la communauté Écotable, l'association qui travaille main dans la main avec la société Écotable pour que la restauration durable devienne une réalité. L'association organise notamment des rencontres engagées à Paris, Marseille et Lyon à destination des professionnels de la restauration. Cette hors-série intitulée « Rencontres » vous fait vivre ces moments d'échange passionnants et stimulants. Amis restaurateurs, amis restauratrices, à écouter sans modération.
Nous sommes la communauté Écotable, l'association qui a pour mission de faire progresser l'alimentation durable en s'appuyant sur un réseau de professionnels engagés. Je suis Lorraine Petit, co-secrétaire générale de l'association et journaliste culinaire. Dans cet épisode, nous décortiquons la notion de démocratie alimentaire. Les témoignages que vous allez entendre ont été enregistrés à l'été 2023 lors d'une rencontre à la cantine des Arbustes dans le sud de Paris. Avec une inflation à plus de 23% en un an rien que sur les légumes frais, de plus en plus de nos concitoyens et concitoyennes doivent se serrer la ceinture. Et selon l'étude de Destin Commun, une personne sur 10 déclare même devoir sauter des repas. L'aide alimentaire est plus sollicitée que jamais, par des publics nouveaux comme les étudiants ou les ménages de classe moyenne. Toutefois, de nombreuses voix se lèvent pour faire valoir une nouvelle manière de nourrir les plus fragiles, pour qu'ils ne soient pas tributaires des rebuts de la grande distribution, mais qu'ils bénéficient aussi d'une alimentation saine et durable. Sujet hautement politique que la démocratie alimentaire. Dans un contexte de tension sociale, comment promouvoir une alimentation saine et durable pour toutes et tous ? Et on en est où de la sécurité sociale alimentaire qui garantirait à tous les citoyens et citoyennes, quelle que soit leur situation financière, un accès juste et équitable à une nourriture de qualité. Lila Djellali, adjointe à la mairie du 20e arrondissement et chargée de l'alimentation durable et de l'économie sociale et solidaire, met en lumière les disparités observées dans son quartier et explore des solutions envisageables pour garantir une assistance alimentaire adaptée à tous.
Alors déjà, c'est une toute nouvelle délégation. C'est la première fois qu'on voit un peu partout en France la délégation, le portefeuille, en tout cas alimentation durable. Donc c'est une page blanche, mais qui n'était pas du tout comprise. Dans le sens où alimentation durable, on imagine toujours que c'est très propre, que on va faire des petites épiceries, que mais l'angle qui a été pris par beaucoup d'adjoints et d'adjointes partout en France, c'est sur comment on réduit les inégalités. Et comment on travaille sur ce volet-là. Et en fait, on se rend compte, surtout moi, dans le 20e arrondissement, qui est la 11e ville de France, c'est plus de 200 000 habitants, avec deux quartiers prioritaires de la ville et une vraie mixité sociale. Mais dedans, vous avez à peu près 10%, ce qui est énorme, 10% de personnes qui n'ont pas accès à une alimentation. Mmh. Et je parle pas d'alimentation saine, d'alimentation. Donc du coup, c'était de pouvoir essayer de catégoriser, malheureusement, parce que on voit que un enfant sur quatre n'a pas accès au petit déjeuner. On voit que les étudiants finissent le mois avec 50 euros, et donc c'est la variable du justement. On mange, on se soigne, on achète le matériel qu'il nous faut pour l'école. On a aussi les personnes isolées. On a énormément de personnes qui vivent seules et qui ont des petites retraites. Donc le premier travail, c'était d'analyser tout ça. Et en analysant, on se rend compte que la seule offre qu'on est capable de leur faire politiquement, c'est l'aide alimentaire, qui est extrêmement importante, mais qui est un système d'urgence. Et comment on fait pour sortir de ça? Comment on fait pour accompagner les personnes qui vont à l'aide alimentaire ou pas? Parce qu'on a des angles morts, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas franchir la porte. Comment on essaie de rendre un peu plus de dignité? Et comment on arrive aussi à rentrer chez eux? Parce que les personnes, par exemple, les personnes âgées ne sortent pas beaucoup. Donc voilà, c'était tout ce travail-là qui a été mis sur la feuille de route. On n'a pas beaucoup de chiffres exacts. C'est pas quelque chose qui a été vraiment traité. Et donc, il fallait vraiment repartir de ce qu'on avait comme information, mais de rentrer aussi dans un travail de dentelle. Et ce travail de dentelle, il peut se faire qu'avec les affaires sociales. Il peut se faire réellement qu'avec les personnes qui sont qui sont au quotidien avec avec les personnes qui sont en situation de précarité, par exemple pour les personnes âgées. On est passé par un système D, c'était les infirmiers et les infirmières libéraux, et qui peuvent aussi nous informer que qu'ils n'ont pas accès à une alimentation. Ça n'a jamais été pensé. Ça, on n'a pas encore créé assez de ponts. Donc à la fois c'est hyper intéressant parce qu'on peut arriver avec des vraies idées innovatrices, mais en même temps c'est assez frustrant parce que on a envie d'aller plus loin. Et ça a été le combat, de ces trois dernières années.
Alors que plusieurs associations fournissent des repas à environ 7 millions de personnes en France, Ousmane Ishak Mété, directeur du développement chez Refugee Food, souligne l'importance de reconnaître à chaque individu le droit de choisir ce qu'il ou elle souhaite manger.
Sur la démocratie alimentaire, pour moi déjà il y a démocratie et donc il y a le choix de choisir ce qu'on va manger. A priori, nous ce soir, on va choisir en grande partie ce qu'on va aller manger, ce qu'on va mettre dans notre salade, ce qu'on va faire en entrée, en plat, en dessert. Sur l'aide alimentaire, aujourd'hui, on donne pas le choix à des personnes qui viennent manger sur des distributions, que ça soit au Resto du Cœur, au Secours Populaire, à la Chamba, ou à travers voilà d'autres dispositifs. Et je trouve ça dur dans des dispositifs où des personnes viennent et ne peuvent pas choisir. Enfin, ils ont un repas effectivement, mais il y a pas le choix entre le dessert, il y a pas le choix entre le menu. C'est on donne à manger pour donner à manger, et voilà. Et je trouve que du coup, la démocratie alimentaire, c'est de pouvoir redonner le choix à ces personnes qui sont en grande précarité et qu'il y a peu d'offres de repas végétariens ou effectivement il y en a qui vont peut-être manger de la viande halal ou de la viande cachère ou c'est un vrai sujet. Aujourd'hui on travaille beaucoup avec Action pour la faim, avec d'autres acteurs et alimentaires pour savoir comment est-ce qu'on peut redonner la possibilité à ces personnes de choisir. Pareil dans les colis alimentaires, quand on distribue des colis alimentaires à des familles en grande précarité, ça va être beaucoup des produits du FEAD, donc c'est du Fonds européen d'aide alimentaire. Et donc elles ne choisissent pas ces familles-là. Et moi j'ai des images où en fin de distribution où les familles se revoient un peu au bout de la rue et en fait échangent les produits entre elles, des femmes voilà, ou des hommes qui vont se redistribuer les produits parce qu'en fait il y a des choses dont ils ont besoin et d'autres pas. Déjà, est-ce qu'on réfléchirait pas à avoir des transferts monétaires? Il y a beaucoup de préjugés sur le fait de dire on va donner de l'argent à des personnes en grande précarité, mais en fait ils vont l'utiliser pour aller acheter n'importe quoi, etc. Sauf que c'est faux. Il y a une étude qui a été menée par Action contre la faim et qui a montré que 90% des personnes ont utilisé cet argent pour se nourrir et pour choisir eux-mêmes leur alimentation. Donc ça peut être une solution. Ou deuxième solution, déjà, c'est comment est-ce qu'on peut améliorer la qualité des repas comme on fait au Refugee Food, où on choisit notre approvisionnement. On vous disait tout à l'heure sur la lutte anti-gaspillage. Aujourd'hui, on dépend de la lutte anti-gaspillage, on dépend des grands le carrefour de gens, voilà, de savoir qu'est-ce qu'ils vont nous laisser à la fin et qu'est-ce qu'on va trier, et qu'est-ce qu'on va pouvoir, sans critiquer le modèle, parce que en vrai, ça permet au Resto du Cœur, à d'autres acteurs, de produire des repas en volume. Il y a un enjeu de repas du volume et du coût, en fait.
Si donner de l'argent est une solution envisageable pour redonner le pouvoir sur sa consommation à tout un chacun, Francesca Paschini, députée de la deuxième circonscription des Hauts-de-Seine, proposait début 2023 un projet de loi visant à instaurer une prime alimentaire aux bénéficiaires des minima sociaux.
Et donc, c'était aussi une volonté du groupe écologiste de vraiment poser le débat sur l'alimentation à l'Assemblée nationale. Et dans des propositions de loi qui passent vers cette journée, qui passent via cette journée de niche, on a souvent très peu d'articles. Donc, nous, souvent, c'est même un seul article. Nous, on a réussi à en mettre trois. Et donc, il y avait le premier article visé à apporter une prime alimentation, puisqu'on était et on est encore en pleine période d'inflation alimentaire. Donc, nous, l'idée, c'était d'aller au-delà de ce que proposait le gouvernement, d'avoir beaucoup plus déjà au niveau du montant et puis que ce soit une aide où on n'impose pas quoi acheter avec. C'est-à-dire aussi rendre à nouveau la liberté, puisque chacun sait ce qui est bon pour soi, et donc rendre à nouveau la liberté de pouvoir avoir les moyens d'aller au supermarché et d'acheter ce qu'on considère bon pour soi-même et pour sa famille. Et donc, nous, on proposait une aide de 50 euros par personne à tous les bénéficiaires des minima sociaux. Donc, l'idée, c'était que ce soit une aide qui soit versée de façon automatique. C'était le plus facile à mettre en place. Donc, dès qu'on était bénéficiaire des minima sociaux, automatiquement, on avait cette aide de 50 euros par personne et par mois. Et forcément, ça a un coût. Le coût était de 7 milliards d'euros. Et donc, 7 milliards d'euros quand le gouvernement est prêt à mettre sur la table 20 millions d'euros par an. Voilà, on voit la différence. Mais en même temps, avec 20 millions d'euros par an, ça fait 2 euros par mois et par personne bénéficiaire des minima sociaux. Donc, on se rend compte que finalement, on fait rien avec ça. Et après, je voulais revenir aussi sur finalement toute l'aide qui est fournie, enfin les produits qui sont fournis à l'aide alimentaire par les supermarchés, c'est souvent aussi des produits qui sont pas de qualité. Mmh. Et c'est ce que nous disent souvent les associations. Et du coup, en plus de générer finalement de la marge parce que ils sont défiscalisés sur ces aides-là, et ça nécessite aussi du temps pour les associations de pouvoir faire le tri parmi tous les produits qui leur sont donnés. Pourquoi ça a pas fonctionné? Parce que moi je te le disais tout à l'heure, c'est un combat qui commence, qui par endroit est bien engagé. Mais qui du coup nécessite encore beaucoup d'énergie et encore beaucoup de communication, et ça l'est d'autant plus pour les questions alimentaires qui ont aussi le frein souvent des enjeux économiques bien sûr, des lobbies, des questions générationnelles, des questions culturelles, des questions religieuses. Donc en fait, on fait face à beaucoup de paramètres qui s'entrecroisent.
Dans la lignée de permettre aux individus de décider de leur propre consommation, Lila Djellali propose également un moyen de redonner le pouvoir aux consommateurs en portant le projet de sécurité sociale alimentaire.
Déjà, le mot sécurité sociale alimentaire a été un vrai sujet, le terme en soi. Donc, on parle beaucoup de caisse alimentaire. Et le but, c'est que on puisse travailler sur l'universalité, que tout le monde ait accès à une alimentation saine et durable, avec un montant qui est alloué par mois. Et on cotise de 1 euro jusqu'à plus que ce montant que vous recevez. Le collectif SSA, Sécurité sociale alimentaire, part du principe que c'est 150 euros par mois. Alors, vous avez plein de différentes expérimentations partout en France. Nous, par exemple, on propose 100 euros. Donc, le but, c'est que les gens cotisent entre 1 et plus de 150, parce que le reliquat, en plus, permettrait de créer un fonds de roulement et de devenir de plus en plus autonome. Et du coup, il y a un collectif qui se crée, et c'est là où on choisit démocratiquement les produits qui sont fléchés dans des structures ou des magasins bien précis. Le but, c'est de faire une charte et qui est créée dans ce collectif. Et dans le collectif, vous avez à la fois les structures d'utilité sociale et à la fois des habitants et des habitantes. Donc, réellement, c'est encore une fois, le mot est pas très, très joli, mais c'est de flécher, c'est de découvrir aussi par exemple, dans le 20e arrondissement, tout ce qui est d'utilité sociale, de pouvoir les inclure et avec les habitants et les habitantes, choisir démocratiquement les produits, les fruits et les légumes, et au-delà la baguette de pain, par quel magasin on a envie de passer, c'est le plus important aussi dans cette belle aventure, c'est que toute la chaîne de valeur est importante, c'est-à-dire que les producteurs et les productrices vont pouvoir être choisis, et donc ils vont travailler de façon saine, donc on protège la terre. Et ça va jusqu'à des structures d'utilité sociale. Donc, on aide aussi ces structures à mieux se développer et jusqu'au consommateur et à la consommatrice. Donc, c'est réellement toute la chaîne de valeur qui est mise en valeur et qui pourra bénéficier de cette expérimentation. Mais c'est un travail de 2 ans quand même, parce que bien évidemment, on avait envie de créer la sécurité sociale alimentaire, mais il fallait créer l'offre. Il fallait qu'on implante aussi dans chaque quartier des offres cohérentes. Et donc, tout ce travail a été fait. Et maintenant, on va créer la demande. Alors, nous, petit lobbying, nous, on partirait sur 500 personnes par an. En tout cas, la première année, c'est 500 personnes. Et plus on a des cotiseurs et des cotiseurs qui rentrent et qui peuvent mettre plus de 100 euros, plus on aura la possibilité de d'intégrer d'autres personnes. Donc, c'est le challenge, c'est 500. Mais là, on est en train d'avoir plein de leviers hyper différents, hyper, hyper innovants. Il y a des restaurateurs qui sont intéressés à faire de l'arrondi. On avait déjà créé ça pour des assos et on avait réussi à obtenir, par exemple, 5000 euros par mois. 5000 euros, si on part sur 100 personnes, enfin, sur 100 euros, ça fait déjà 50 personnes en plus par mois. Donc, c'est d'avoir tous ces leviers-là. Mais avant de pouvoir les mettre en place, c'est que la ville de Paris puisse se positionner en tant qu'acteur fort, qu'on puisse intégrer réellement la caisse alimentaire.
Enfin, pour favoriser l'inclusion sociale et le partage, des restaurants comme la Cantine des Arbustes, portée par le Refugee Food, adoptent une approche où chacun et chacune, quel que soit son budget, est le ou la bienvenue. C'est ce qu'explique Ousmane Ishak Mété.
L'idée, c'est que tout le monde puisse accéder à un même menu, à un même repas, en fonction de ses moyens. Ici, à la Cantine des Arbustes, c'est un modèle unique. Pour en avoir parlé avec d'autres acteurs, c'est permettre à des personnes en grande précarité de pouvoir bénéficier d'un repas ici, de permettre à des étudiants qui sont boursiers ou non de pouvoir venir manger ici avec des tarifs préférentiels. C'est-à-dire que on a aussi des salariés d'autres entreprises, des entreprises aux alentours qui vont manger et qui vont avoir un tarif plein, c'est aux alentours de 10 euros. On va avoir des étudiants qui sont pas boursiers mais qui vont avoir un tarif quand même moindre, qui est aux alentours de 4 euros. Et des boursiers, des étudiants et étudiantes boursières ou boursiers qui vont avoir des repas gratuits. Et il y a tout le travail qu'a mené Raphaël et Laure sur aller à la rencontre des associations du 14e en localité pour que les associations puissent orienter des personnes en grande précarité et qu'elles aient aussi accès à ce repas. Et donc, ce qui est unique ici, c'est qu'il y a une mixité sociale assez incroyable. Et donc, c'est des étudiants qui ramènent leur en plus dynamisme, leur fraîcheur, voilà, et des personnes en grande précarité qui vont discuter aussi. Et il va y avoir des échanges, des discussions qui vont être assez intéressantes. Et on nous disait le contraire il y a 2-3 ans que c'était compliqué de mettre des étudiants avec des personnes en grande précarité ou que des gens qui étaient dans des entreprises pouvaient pas forcément manger avec des personnes. Et non, en fait, ça existe et c'est ici et ça marche très bien. Et c'est même pour les personnes qui sont en grande précarité, qui sont souvent exclues de beaucoup de choses, il y a plus de différence. Enfin, c'est l'inclusion aussi. On a une cuisine ici qui permet effectivement de pouvoir produire des repas pour les personnes qui viennent, comme je disais tout à l'heure, et aussi de produire des repas pour l'aide alimentaire. Donc, on va en collaboration avec des acteurs comme les Restos du Cœur, comme la Charba, comme la Fondation L'Âme du Salut, on va compléter une offre. Un exemple concret, cet été, la Charba remplace les Restos du Cœur sur une distribution de repas à Porte de la Villette. A besoin de produire 650 repas, sauf que la Charba ne fait pas que ça en termes d'activité, et donc ils font appel à un partenariat avec Refugee Food pour pouvoir les aider sur la production de repas le midi. Et donc on va produire le repas du midi pour la Charba. Et ça, c'est aux alentours de 400 repas cet été. Et globalement, c'est entre 300 et 600 repas par jour on va produire pour la Charba, pour les Amars, Aurore. On a envie de choisir et on veut choisir notre approvisionnement. À la différence de la lutte anti-gaspillage, où effectivement on est dépendant, comme je disais tout à l'heure, de ce que vont nous redonner Carrefour et des autres. Voilà. Et dans une autre réflexion, c'est est-ce qu'on joue pas aussi le jeu de la surproduction? Et ça, c'est plus un débat global qu'on a avec mais nos compères des Restos du Cœur, la Charba ou d'autres partenaires, où on se dit en fait on va récupérer des invendus alimentaires. Donc en fait, est-ce qu'il n'y a pas un système où on est en train de faire le jeu des grandes industries qui sont défiscalisées? Donc en fait, ils gagnent de l'argent en faisant ça. Ils surproduisent et ils se disent ok, en fait, enfin, il y a des associations qui vont venir récupérer. En plus, c'est nous qui allons chercher les denrées. Donc on était en train de se dire est-ce qu'on va pas demander de faire payer le. On se déplace, on prend nos camions, on prend nos chauffeurs d'ivoire pour y aller. Voilà, il y a aussi sur les collectes alimentaires, quand vous allez dans les magasins et vous voyez des Restos du Cœur ou la Banque Alimentaire qui vont vous solliciter pour aller acheter un paquet de riz, donc vous allez l'acheter, ce paquet de pâtes, et vous allez le donner gentiment à cette association. Sauf qu'aujourd'hui, les marges, bout à bout, les marges, elles vont pas pour Restos du Cœur, elles vont à Carrefour, si on additionne, et ça, c'est dans toutes les collectes. Donc la vraie question aussi, c'est qu'est-ce qu'on va aller négocier, discuter avec ces entreprises-là, qu'est-ce qu'on va aller voilà mettre en place pour trouver d'autres solutions. Et d'autres solutions, c'est de choisir son approvisionnement. Sauf que choisir son approvisionnement, ça veut dire aller acheter, et acheter, ça coûte de l'argent. Et dans l'aide alimentaire, il y a un enjeu qui est du volume. On doit produire beaucoup parce qu'il y a beaucoup de personnes en grande précarité. Sauf que les associations, elles n'ont pas non plus un budget important, d'où cette dépendance à la lutte anti-gaspille. Aujourd'hui, c'est de se dire, on va aller quand même choisir notre approvisionnement. Et la force du Refugee Food, c'est aussi d'avoir une activité économique, une activité commerciale, qui est le traiteur, à travers notre entreprise d'insertion, qui permet d'avoir un revenu économique et qui permet d'être dépendant aussi financièrement de ses choix d'achat et de se dire qu'on va aller acheter nous-mêmes nos denrées alimentaires. Sauf que du coup, on peut pas arriver avec un prix à 4 ou 5 euros et dire, OK, on va, contrairement à un prix entre 2 ou 3 euros issus de la lutte anti-gaspille. Donc, comment est-ce qu'on va réduire ce coût-là? Ben, c'est grâce à notre modèle économique. On va dire, OK, on prend en charge les bénéfices du modèle économique commercial qu'on va injecter dans l'association et on va pouvoir diminuer le coût à la fin. Qu'on va proposer, enfin, ou qu'on va, voilà, sur lequel on va travailler avec les Restos du Cœur. On travaille aussi dessus sur l'approvisionnement et sur pouvoir proposer des menus carnés ou des menus végétariens. Donc, c'est un vrai sujet. À l'hôtel de ville, par exemple, il y a un dispositif d'aide alimentaire qui s'est monté il y a 2 ans, notamment pour faire face au Covid et au fait qu'il y avait beaucoup de personnes, encore plus de personnes qui avaient besoin de manger. Et donc, dans le menu qu'on proposait sur les 7 jours, on avait 3 ou 4 jours sur des menus végétariens et 3 jours des menus avec de la viande ou du poisson, d'ailleurs. C'est très bien cuisiné. On a un chef, d'ailleurs, qui est assez incroyable et d'autres partenaires, d'ailleurs. Et c'est apprécié. Et il n'y a pas, il n'y avait pas de, voilà, on n'a pas eu de revendications. Et c'est apprécié. Et du coup, on parlait de sensibilisation, on parlait d'éducation, on parlait de, et c'est ça aussi. Ça veut dire que dans un plat, on n'est pas obligé de mettre de la viande à chaque fois. Ça peut être bon. Ça.
Merci d'avoir écouté Rencontre, un podcast de la communauté écotable que je me délecte d'animer. Réalisation, montage et mixage par Justine Nérini. Le générique est d'Antoine de Boutray. Restaurateurs, restauratrices, producteurs et productrices, élus, citoyens et citoyennes, vous souhaitez faire avancer l'alimentation durable avec nous ? Rejoignez le mouvement. Écrivez-nous sur contact@communautéécotable.fr et adhérez à l'association sur Hello Asso. À bientôt !